T'as envie de confier tes enfants à Anaïs.
Exactement, il fait, voilà, et je pense qu'il y en a plein des gens comme ça. Mmh.
Ouais. Alors, on va regarder le résultat final.
Et on n'en parle pas.
Pour ou contre 36 heures de travail en 4 jours.
Pour à 80.
Roulement de tambour.
Ça va être partagé, tu vois.
Ouais. Attention. Zora, tu as gagné 52-48.
Mais c'est serré.
Bravo, Zora. Seul contre 3. Hein.
Oui, bravo, Zora. T'avais des bons arguments.
Bravo, monsieur Attal. Il faut continuer dans la même voie.
Je te l'annonce, Zora. Dans un pays feignant qui passe qu'à aller se faire dorer.
52-48. Dans un instant. La campagne qui déclenche la polémique.
Je reste là, c'est pour les femmes, donc je reste ici. Voilà. Vous ne bougez pas.
Pourquoi ? Parce qu'on a 84% des accidents mortels qui sont causés par des hommes. Et on a une nouvelle campagne.
Pour une fois qu'on stigmatise les hommes.
Qui arrive pour la sécurité routière, qui dit bah écoutez, dans ces cas-là, conduisez comme les femmes. Est-ce que les femmes conduisent mieux que les hommes, effectivement ?
J'espère que les hommes vont.
32-16 pour en discuter avec les GG.
Ndjaja. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules. Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr, toute l'actualité.
À vos réveils, RMC, Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Egouet, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, c'est tous les jours avec vous à la radio, à la télé. Vous pouvez aller sur notre appli RMC aussi pour récupérer les podcasts. La première heure est déjà disponible en podcast. Et puis vous avez toutes les petites indiscrets, les petites anecdotes qui sont récoltées par Anaïs pendant la pub. C'est comme ça que vous saurez si les grandes gueules étaient des bons élèves ou pas, s'ils ont été punis souvent ou pas, s'ils sont fait exclure de l'école ou pas. Ça, c'est sur les podcasts. Donc allez-y, allez à la pêche ou vous allez sur le site internet rmc.fr. En attendant, on va attaquer notre dernière discussion, celle qui va nous emmener jusqu'à midi. Ensuite, vous retrouverez Estelle Denis. Discussion concernant la conduite. Est-ce qu'on est meilleur quand on est... quand on conduit comme un homme ou comme une femme?
RMC, les grandes gueules.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura...
Ça ne rajeunit pas, ça.
Non, pas vraiment, non. Je sais pas qui c'est.
En plus, c'est 90, c'est pas non plus...
Sur la route, ça fait 30 ans que ça
va.
Lili Cube. Sur la route, 84% des accidents mortels sont causés par les hommes. Écoutez, Julien Thibault, qui est président de l'association Victimes et Citoyens, qui était ce matin sur RMC avec Charles.
Attirer l'attention, qui sont assez hallucinants quand on voit ces chiffres-là, que 84% des accidents corporels sont causés par les hommes. Et non moins de vouloir être sexiste, c'est pour pouvoir justement combattre ces idées. On est allé sur les réseaux sociaux en fait chercher en écrivant hashtag femme au volant, et il y a un torrent de publications misogynes dans ce sens-là, mettant en scène les femmes en tant que mauvaises conductrices. Et donc on a voulu essayer de réagir à toutes ces propositions, à toutes ces publications avec des faits statistiques.
Voilà, donc il y a les statistiques et l'association Victimes et Citoyens qui lance cette campagne de sécurité routière, conduisez comme une femme.
Oui, alors mais il y a un chiffre qui manque, c'est parce que les hommes conduisent plus que les femmes. Donc il faudrait ramener aussi et le nombre d'accidents.
Il l'a dit ce matin.
Voilà, et c'est important, c'est de ramener le nombre d'accidents par le...
Eh bien, c'est voilà. Simple, hein, ça n'a aucun effet puisque c'est 1000 km par an, hein, alors, d'écart.
Oui, il y a 1000 km par an que d'écart, ah, bah, il y a quand même un écart.
Bah, les c'est hommes faible, plus bon, que les... c'est faible. Donc, la moyenne risque. Doit être à
alors c'est faible, 7, je suis d'accord, 8000, mais il faut quand même le préciser que les hommes sont plus souvent au volant que les femmes. Après, effectivement, les hommes ont des conduites à risque et des risques qui provoquent des infractions, notamment les plus graves. Par exemple, 93% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont des hommes. 88% des jeunes conducteurs tués sur les routes sont également des hommes. Donc effectivement, il y a un problème avec les hommes au volant. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il faut conduire comme des femmes? Et ça veut dire quoi conduire comme une femme aussi? Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc comme on a évidemment une femme autour de la table, nous allons tous nous tourner vers voilà. Zora Bitan et lui demander, comment conduis-tu Zora?
Bah, on est responsable au volant, nous les femmes. On est vraiment responsable. La voiture pour nous, c'est pas un objet fétichiste, voilà.
Non, c'est un viriliste.
Viriliste, pas du tout. C'est un instrument qui nous permet de nous déplacer.
Est-ce que tu as plus peur au volant que qu'un homme, par exemple?
Est-ce que oui. Est-ce que ton oui. mari conduit mieux que toi? Ou
oui,
pas
enfin oui. Oui, il conduit mieux que moi.
Ah bon,
enfin, non, non, c'est pas qu'il conduit mieux que moi. Ce que je veux dire, c'est que.
Et tu veux pas le vexer, sur.
Non. Il conduit bien. Il est prudent. Il fait attention. On se met pas en. On est vraiment responsable au volant. C'est-à-dire que, voilà, moi, par exemple, je respecte tous les limitations de vitesse, les priorités à droite. On n'est pas toutes puissantes au volant. On n'est pas dans ce délire où les souvent, en général, les mecs dans une voiture, il y a une espèce de puissance, de virilité, voilà, qui s'installe qu'on n'a pas nous les femmes. Nous, on prend la voiture pour dire je vais là, la voiture me sert à aller là, elle me sert à faire ça. Mais la voiture, c'est pas l'endroit où on rentre dedans, on se dit oh là là, on joue pas notre vie et puis on joue pas notre ego, on joue pas la puissance. C'est toute la différence. Alors qu'un gars, il rentre dans sa voiture, regardez les filles, le rapport qu'elles ont au garçon, ah il a une belle voiture. Nous on dit pas à un mec il a une belle voiture, on dit il est sympa, il fait rire, il est drôle, il est intéressant, on s'en fout qu'il ait une belle voiture. Enfin c'est, je veux dire que le contraire plutôt, les hommes disent pas d'une femme elle a une belle voiture, etc. C'est le contraire. Donc c'est ça qui est différent.
Mais si. Les filles disent d'un homme, ouais, il a une belle voiture, c'est un objet de séduction.
Voilà, voilà.
Et donc l'homme le vit comme tel. Et
voilà.
Alors qu'un homme dit pas d'une femme, elle a une belle voiture.
Voilà.
Donc tu vois
comment on raccroche la voiture à l'homme. Tu vois comment on raccroche la voiture à l'homme. Alors. Et lui-même. Sa voiture, c'est...
Petit tour de table. Qui conduit le mieux?
En même temps, je vais faire juste une...
Ta compagne, Fabienne.
Je ne sais pas si on doit avoir un... Comment on doit juger la conduite.
Tu vois quand elle est...
J'ai plus de points qu'elle. Voilà.
T'as plus.
C'est la.
Mais du coup, plus. Ça retombe à ce que tu dis.
Non. Elle fait des bornes.
Elle fait plus de bornes que moi.
Je sais pas si elle en fait plus que moi, mais elle fait des bornes, ouais.
Mais l'homme et la voiture, c'est très beauf, hein. Les mecs avec leur voiture,
je trouve que les faits sont têtus.
Mais qui sacralise la bagnole.
La statistique, là, est têtue.
Le tuning et machin.
Tous les hommes font pas du tuning.
Non, mais c'est très beauf. Les mecs, leur voiture, c'est.
Non, mais la relation à la voiture, elle a.
Mais oui.
Et pas la même.
Quoi. Mais oui.
Alors, qui conduit le mieux chez les Marty?
Alors, j'ai moins de points que ma femme aussi, mais j'ai moins d'accidents aussi. Donc, ça s'équilibre. Et je pense que je conduis
donc
mieux.
Donc, toi, tu fais partie de ceux qui peuvent dire.
Quand je regarde toutes mes années de conduite,
oui, mais parce
j'ai jamais
que, parce qu'elle manque de concentration.
Elle en a eu quelques-uns, mais par contre, elle a beaucoup plus de points que moi.
Elle manque de concentration au volant, ta femme.
Non, mais c'est le rapport à la voiture qui change.
Il va jusqu'au bout.
Pourquoi elle manque de concentration?
Non, mais Jérôme, il faut dire que Jérôme, c'est un fan de bagnole.
Oui.
Donc toi, t'as beaucoup roulé, t'aimais bien la vitesse, etc. Tu t'es assagi, tu nous l'avais dit.
J'ai fait le con, je me suis assagi, oui.
Voilà, tu t'es assagi.
Ah voilà, comme quoi c'est vrai.
Mais les points qui lui manquent aujourd'hui,
non,
c'était quoi quand il faisait le con?
Ma femme a perdu des points sur mon compte à moi.
Ah bon?
Je lui ai transféré quelques pertes de points.
Qu'est-ce qu'elle commet comme infraction?
Attends, il va dérouler le reste.
Sinon, il tombe en craie.
Alors,
c'est une stat que t'as pas donnée, Olivier, qui est importante. Hein. Il y a 85% des annulations de permis qui sont des hommes.
Et oui,
hein.
En plus.
Ben oui, bien sûr.
Quand tu fais un stage de récupération, j'ai fait une fois un stage, il n'y avait que des mecs. Hein,
ouais.
Et voilà.
La seule femme, c'était celle qui nous faisait la morale.
Qui nous
manageait. Il disait que c'était pas bien.
Ouais, bah oui.
On va en parler avec Ludovic qui est chauffeur livreur. Bonjour Ludovic.
Bonjour les GG, comment ça va, hein?
Bah, bien mon bonjour, cher Ludovic. Vous êtes sur vous êtes en livraison en ce moment, vous faites la pause là à cette heure-ci?
Bah écoutez, depuis 5h du matin, c'est ma première pause avec vous aujourd'hui les GG.
Bon, okay, bah alors, mon cher
et la
Ludovic,
meilleure pause avec nous.
Les femmes conduisent-elles mieux que les hommes, oui ou non?
Bah bien sûr que oui, c'est une évidence même.
Voilà. Ah, alors expliquez-nous pourquoi, sur quoi vous vous fondez.
Eh ben, déjà, les femmes sont déjà forcément beaucoup plus prudentes au volant que, oui, que nous, hein, que nous, les mecs. Hein. Il suffit de le voir. Hein. Moi, je fais 5000 bornes par mois, à peu près, en livraison. Et ce que je vois sur les routes, tous les jours, c'est pas des femmes. Après, il y a eu aussi une toute petite minorité infime de femmes qui jouent les rebelles aussi sur la route. Il faut le dire aussi. Mais il est vrai que sur la route, c'est les mecs les plus dangereux. Et il suffit pas même de regarder au niveau de La Rochelle où je travaille. On va simplement prendre les réseaux sociaux. Les mecs qui se filment à rouler à 350 sur les autoroutes, que ce soit en France ou à 400 km/h, je crois, sur l'autobahn en Allemagne.
Oui, avec une Bugatti Chiron, je crois.
Voilà, une Bugatti. Non,
ça viendrait pas à l'idée à une femme de faire ça, quoi.
Bah exactement que non, bien sûr que non. Ça vient, enfin, après, peut-être qu'il y en a qui m'habitent.
Oui, oui, oui.
Mais il faut se le dire, voilà, quand on entend des pseudo-phrases comme femme au volant, mort au tournant, bah non, moi je pense que c'est plutôt les mecs, oui, qui devraient se méfier des détours d'un tournant quand ils sont au volant, quoi.
Mais, ouais. Ludovic, vous dites, voilà, les femmes sont beaucoup plus prudentes. Vous qui êtes sur la route, effectivement, et qui faites de la ville essentiellement, c'est quoi les comportements les plus dangereux, les plus risqués que vous voyez là en ce moment, justement?
Moi, je fais pas de ville. C'est surtout de la campagne aux alentours de La Rochelle que je fais. Bah, c'est les dépassements dangereux déjà. Les dépassements dangereux. Là, il y a pas plus tard que ce matin, on m'a doublé sur un pont. À la limite, c'était juste une voie, quoi. Et ben, on a quand même réussi à me doubler. Le mec qui devait rouler à 110 sur le 80 sur une petite route de campagne. Lorsque je prends les quatre voies pour revenir justement sur La Rochelle, j'ai du dépassement à droite aussi parce que apparemment on roule pas assez vite. Quand on dépasse déjà quelques véhicules, ici c'est limité à 110 sur les quatre voies, on a quand même l'occasion de me doubler à 130.
Ouais, alors, moi Ludovic, je veux bien, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec votre femme, enfin, il y a moi aussi, on voit des comportements féminins bizarres sur la route.
Les minoritaires, on parle en général.
Par exemple, souvent, on voit des femmes rouler au milieu sur l'autoroute.
Oui,
Il
y a une pratique que vous avez pas parlé, si vous êtes chauffeur, non, mais moi, je vais te faire une confidence, je me suis fait la réflexion, j'ai regardé sur la moto-taxi ce matin, j'ai vu 70% des femmes au volant au téléphone.
Ah!
Ah, mais il y en a.
Dans les bouchons, j'ai vu 70% des femmes que j'ai vues dans une voiture.
Avec le téléphone à la main?
Vu une. Le mototaxi m'a fait la réflexion. Il peut témoigner. Elle était en visio.
Bien sûr.
Sur le périph, en visio, quoi.
Ouais, mais c'est normal. Voilà. C'est normal.
Bah oui, mais bon, là, c'est bien comportement. Coup,
non, mais vous détournez la question, là.
Celle-là,
elle est bonne. Non, moi, je veux un droit de défense, s'il vous plaît.
À un moment donné, je le relativise, quoi.
Je veux un droit de défense.
C'est d'arriver dans le vif du sujet.
Voilà, le vif du sujet,
une fois
c'est
qu'on
que
a fait la démagogie, voilà, on dit les choses.
On parlera du maquillage dans le rétroviseur.
Oui, on parle de statistiques en général. On ne parle pas de cas individuels.
C'est ça.
On dit que globalement, les femmes sont plus responsables sur la route que les hommes.
Prudentes.
Ça, plus prudentes.
Elles roulent moins vite.
Voilà.
Elles ont moins d'accidents.
Maintenant, il y a individuellement.
Avec le téléphone, j'ai un doute.
Oui, maintenant, il y a individuellement des comportements. Hommes, femmes, qui sont identiques, que ce soit le téléphone, etc. Non, mais d'accord, mais t'en as vu une, ça y est, ça a traumatisé, apparemment.
Non, mais ce que je me dis, c'est que inconsciemment, on le sait. Parce que moi, ce week-end, pas plus tard que ce week-end, j'ai vu devant moi, j'étais en moto, et devant moi, il y a une voiture qui a fait deux dépassements dangereux. Mais vraiment un dépassement très dangereux, et une minute après, un deuxième dépassement dangereux.
Et après, toi, tu l'as doublé.
Je l'ai doublé avec la moto, et j'ai regardé pour voir quand même quelle était cette personne qui faisait ça. Et j'ai été surpris de voir que c'était une femme.
Oui.
Mais vraiment, tu vois, je me suis dit...
Oui, ça arrive. Bah, bien sûr que ça arrive.
Je te dis qu'inconsciemment, tu vois, seul, le sais. Parce que j'étais... Ouais, seul, ouais.
Donc
seul,
on est en train
avec
de...
une cigarette à la main.
Oui, mais...
On est en train de faire nos propres statistiques, là.
Oui, mais la campagne est intéressante, puisque de quoi il s'agit?
Oui.
Il ne s'agit pas de dénoncer les comportements individuels, mais de dire que globalement, si vous aviez au moins la dose de responsabilité que, en général, les femmes ont... quand elles sont au volant et cette relation qu'elles ont à la voiture que les hommes n'ont pas, on aura déjà un petit peu progressé. Ça n'empêchera pas. Moi, je suis montée en voiture avec des copines. Franchement, j'ai fait un jour un Paris-La Rochelle. Je vous jure que je me suis accrochée. J'ai eu un mal d'estomac à l'arrivée. Tellement c'est une dingo. File de gauche à fond. 470 bornes sans s'arrêter. Une dingue. Une fois où ça m'a vraiment. Il y a des nanas, elles roulent à fond.
Comme les hommes.
Mais il y en a, bien sûr, ça existe.
Merci Ludovic d'avoir été avec nous.
Il y avait une chose que je voulais dire.
Oui, je vous en prie.
Où je suis d'accord avec Zora tout à l'heure quand elle a dit que pour les femmes la voiture c'est pas un objet par exemple fétiche.
Mais oui.
C'est un objet qu'on utilise tous les jours.
Utilitaire.
Exactement. Et je suis absolument d'accord avec elle parce que quand on voit aujourd'hui, moi je prends mon exemple, je roule avec une voiture dont le crédit se termine dans les prochains mois et qui va me soulager également financièrement. Mais quand je vois que au prix j'ai rien à cacher, j'ai payé ma bagnole 23 000 balles et je gagne 1 800 balles par mois et je paye 350 euros tous les mois plus un loyer de 550 balles chez moi. Ce que je veux dire, c'est que ma voiture, je serai pas le premier à vouloir rouler à 250 ou 300 km/h sur une autoroute ou sur des périphes parce que j'en prends soin de ma voiture. Je veux la garder le plus longtemps possible et que si demain je fracasse ma voiture, j'ai plus rien et j'ai plus de travail non plus.
C'est quoi votre voiture d'ailleurs, Ludovic ?
J'ai un Nissan X-Trail de 2015.
D'accord. Ludovic, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne route, soyez prudent. Merci.
Je suis en fin de tournée. Merci de m'avoir reçu, le GG. C'est toujours un plaisir.
Je vous en prie. Merci. À bientôt. Dans un instant, Franck, il est du côté de la Gironde. Il est tailleur de pierre et pour lui, ce qu'il constate, c'est que les femmes freinent un peu n'importe comment.
Ça y est.
Enfin, Franck développe.
Enfin, on dit les choses en les grandes gueules.
Et nous serons avec un.
Oh, les enfoirés.
Psychologue.
Oh là là. Les filles, la pouvez appeler, s'il vous plaît, là.
Un psychologue qui est spécialiste des questions de comportement dans la sécurité routière.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous, bien sûr, au 32-16, vous réagissez, vous venez débattre avec les grandes gueules. Alors, nous sommes avec, on parle de cette campagne de sécurité routière de l'association Victimes et Citoyens, qui regarde simplement, c'est une statistique, les hommes conduisent plus que les femmes, les accidents, c'est 84% des hommes qui les ont ou qui les provoquent. Donc, la campagne, c'est de dire « conduisez comme une femme ». Franck veut en parler avec nous. Bonjour Franck.
Bonjour les GG, salut à vous.
Bienvenue.
Bonjour Franck. Bonjour.
Vous avez un peu de sourire dans la voix, mon cher Franck.
Oh ben oui, toujours. Même s'il pleut à Bordeaux, on a toujours le sourire.
Alors dites-moi tout, est-ce que vous êtes OK avec cette campagne alors ?
Moi je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi ? C'est pas une question de misogynie, c'est que pour ma part, les femmes sont à l'origine des incidents, mais ne sont plus dans les incidents en question.
Elles sont fourbes.
Je sais pas si elles sont fourbes, mais en fait, quand elles sont au volant, elles ne savent pas ce qui se passe autour. Pour moi, c'est ça. Elles regardent juste devant elles, et puis derrière, elles regardent pas.
Oui. C'est pour ça que vous dites qu'elle freine n'importe comment ?
Exactement. Même le clignotant, normalement, quand on met un clignotant, c'est pour signifier aux gens qu'on va tourner.
Oui,
voilà.
C'est mieux.
Ou qu'une femme, elle met le clignotant, elle tourne direct. Elle ne regarde pas s'il y a quelqu'un qui arrive. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois.
Donc en fait, vous dites, les statistiques sont un peu trompeuses, les femmes provoquent un peu sournoisement des accidents, mais ne rentrent pas dans les chiffres.
Exactement, c'est tout à fait mon ressenti.
Tu vois, ça.
Bravo, Franck. Pirouette,
il n'est pas misogyne.
Pas mal, hein. Mais c'est pas mal.
Vous êtes beaucoup. Vous êtes souvent sur la route. Vous êtes beaucoup sur la route.
Oui, parce que je travaille souvent à l'extérieur de la ville, donc j'ai souvent l'occasion de prendre mon véhicule. Et moi, personnellement, je touche du bois, j'ai jamais été à l'accident, à l'origine de graves accidents. Mais ce que j'ai constaté, c'est que bien souvent, c'est les femmes qui produisent l'accident, bah, mais elles sont plus là.
Voyons.
C'est-à-dire qu'à cause des femmes, vous auriez pu avoir des accidents graves.
Bah, oui. Exactement.
Non, mais c'est parce
que j'ai réagi assez rapidement, on n'a pas eu de gros accidents, juste des petites.
Et ensuite, en plus, sa femme, ensuite, hop, elle s'en va.
Non, non,
après l'accident commis.
Un exemple tout con. Un exemple tout bête. J'étais sur la rocade bordelaise, une femme qui pile devant moi sans aucune raison. Voilà.
Typique.
Moi, non, elle freine. Moi, je vois ses feux stop s'allumer. Moi, je pile. Et elle, elle a freiné pour rien, donc elle repart. Mais la personne qui est derrière moi, elle a pilé elle aussi. Et on a touché. Donc nous, on est descendu, on s'est mis sur le bas-côté pour faire un contact.
Et elle est partie.
Et elle est partie. Voilà.
Eh oui, et en plus, femme. Il me semble qu'elle a ri.
Non, vous êtes aperçu de rien.
Alors attendez, Franck, non, parce que
là,
justement.
Là, faut se défendre, là, c'est pas possible.
Ah, non, mais c'est, là, en même temps, c'est des choses.
Non, mais là, c'est un retournement de situation.
Noémie, vous voulez réagir à ce que dit Franck?
Je la vitre et pas, c'est un peu ce qu'il a essayé de nous dire.
Allez-y, Noémie, réagissez à ce que dit Franck alors.
Alors, moi, je suis pas du tout d'accord, parce que moi aussi, je la prends très souvent la rocade bordelaise, et les hommes ne sont pas mieux à ce niveau-là, déjà, si on veut parler sur ce sujet.
Allez-y, Noémie, carte blanche. Hein.
Ah ouais, non, mais là, pour le coup, ça me fait bien rire, parce que moi, du coup, je suis chef de secteur commercial, j'ai tout le sud-ouest en département, je suis H24 sur la route. Je peux vous dire qu'alors, je suis d'accord, il y a des femmes qui conduisent mal, ça, c'est partout, mais alors, les hommes, là, pour le coup, vous êtes au niveau au-dessus, parce que entre les machos qui, dès qu'on les double, ça y est, ils réaccélèrent, quitte à nous doubler sur la droite, parce que ça leur plaît pas. Comme vous dites, les gens qui freinent n'importe comment sur la rocade bordelaise, c'est les hommes qui freinent le plus. Hein, parce que si vous regardez bien dans les voitures, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est une catastrophe.
Et
mais
du
tout
coup,
temps.
Le téléphone, on en parle, Noémie, du téléphone.
Je suis garée.
Est-ce que vous envoyez, parce que quand on est au volant, on voit quand même, enfin je sais pas, la proportion pour moi de femmes et d'hommes au volant, c'est pas la même.
Allez-y, Franck, vous vouliez répondre à Noémie?
Oui, tout à l'heure, on parlait des femmes qui roulaient au milieu.
Ah.
Parce que la rocade bordelaise est passée à deux fois trois voies. Qu'est-ce qu'un véhicule fait au milieu? Oui, en sachant qu'à droite, il n'y a personne, à gauche, il n'y a personne.
Mais il n'y a pas que les femmes qui roulent au milieu.
Excusez-moi, encore une fois, je ne veux pas être misogyne. Mais quand je suis au volant avec mon ami et qu'il y a une incivilité qui se produit devant nous, je fais un pari avec elle, je lui dis, je parie que c'est une femme. Et effectivement, quand on dépasse le véhicule en question,
c'est une
femme.
Moi, je parie que c'est un vieux.
Mais c'est dingue, regardez la question de départ. Regardez, non mais c'est incroyable. La question de départ, c'est statistiquement, il est prouvé que la plupart des accidents sont causés par des hommes.
Chiffre, oui.
Et le titre « Conduisez comme une femme » a pour vocation d'adoucir un peu les hommes
de
sur la route
réagir.
Et de les rendre moins fétichistes quant à leur voiture.
Pas
et vas-y, je te sors les dossiers.
Non,
en vérité, à cause des accidents secrets, elles se cachent.
Pourquoi il
ne
faut pas conduire comme une femme?
Pourquoi? Mais parce que... moi, je me vois pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me vois pas tourner comme je veux, rouler au milieu tout le temps. Non, moi, je suis le code de la route.
On est des idiotes, on roule au milieu, on n'est pas clignotants.
Allez-y, Franck.
Non, j'écoute Zora, je vais écouter ses arguments.
Non, mais c'est Noémie qui vous répondait. Allez-y, Noémie.
Je disais que c'est mettre tout le monde dans le même panier, parce que moi je vois beaucoup plus d'hommes au volant que les femmes, et la plupart des gens qui font ça, ce qu'ils disent, rouler au milieu, tout ça, c'est les hommes qui conduisent et la femme côté passagère. Et à chaque fois c'est ça. Moi aussi je suis d'accord sur le fait que rouler au milieu c'est chiant parce qu'à droite il y a personne, mais à chaque fois que je regarde c'est des hommes au volant, donc
mais il y a plus d'hommes en circulation que de femmes.
Oui, mais sauf qu'au final moi je vois plus d'hommes du coup faire des infractions de ce style, enfin si on peut appeler ça des infractions.
Noémie, est-ce que vous pensez que vous conduisez différemment qu'un homme? C'est-à-dire que vous êtes,
le
dit Zora, plus apaisée, plus prudente?
Oui.
Il faut saluer le courage des femmes.
Comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez, Noémie? Comment vous expliquez, vous conduisez différemment qu'un homme?
Parce que moi je m'en fous en fait un peu de la voiture, c'est matériel, voilà. Je roule, je fais ma vie, je fais mon boulot, qu'on me double ou qu'on me double pas, moi je vais pas en faire toute une histoire parce qu'il y a un homme ou il y a une femme qui me double. Les hommes ils sont beaucoup plus comme ça. En général.
Exactement.
Alors justement,
combien de fois sur l'autoroute, il y a des hommes qui m'ont empêché de les doubler quitte à me doubler sur la droite en me faisant une queue de poisson. Mais combien de fois ça m'est arrivé? C'est hyper dangereux.
Mais ou c'est le machisme sur la route.
Vous avez raison, Noémie.
Évidemment, si j'ai plus de permis, j'ai plus de boulot. Donc, bien évidemment que souvent, je roule beaucoup au régulateur. Sur les routes à 80, je suis à 84 maximum parce que je sais que je peux pas me faire flasher à ce niveau-là. Et ben les gens derrière qui me collent au cul quitte à me rentrer dedans, c'est toujours des hommes. Et parce que enfin faut pas être pressé parce qu'au final à chaque fois qu'ils me doublent, je les retrouve, je sais pas, peut-être 500 mètres après. Donc ils ont pas les mêmes réactions que nous, je pense.
Alors Noémie, on va en parler avec Jean-Pascal Assailly qui est psychologue spécialiste à sécurité routière. Bonjour Jean-Pascal Assailly.
Bonjour.
Il y a vraiment une différence de comportement homme-femme au volant, alors les femmes conduisent mieux?
Écoutez, je pense que les statistiques vont mettre tout le monde d'accord. Hein. C'est qu'en fait, depuis le début, tout dépend de quel type d'accident on parle. Ce qui résout toute votre question, c'est ce qu'on appelle la relation entre le sexe et la gravité de l'accident. Sur les tués, 80% des tués, c'est des hommes. Ensuite, sur les blessés, c'est plutôt 70%. Et si on prend les accidents matériels, là, c'est 50-50, en fait. Donc, en fait, c'est pas que les femmes ont plus ou moins, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes types d'accidents.
Chez les femmes,
on est effectivement dans le registre de l'erreur, des accidents, des collisions à deux véhicules en ville, qui produisent même pas du sparadrap, même pas du blessé léger. On froisse de la tôle, et donc, effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à le fait de dire que les femmes conduisent pas mieux.
Mais comment expliquez-vous cette différence de gravité? Oui, mais comment expliquez-vous cette différence de comportement volant?
Parce que par contre, dans les hommes, derrière les accidents des hommes, vous êtes dans le registre de l'infraction, c'est que vous allez trouver de l'alcool, du cannabis, de la grande vitesse, du feu rouge grillé, que le type de comportement routier qu'ont les hommes produit des accidents de bien plus forte gravité. Donc ça, c'est un peu pour résoudre votre
Mais
la sécurité routière s'occupe évidemment plus des tués que de la tôle froissée.
D'accord, mais est-ce que les hommes font de la voiture un enjeu plus important que les femmes?
Oui, bien sûr. Et ça, alors, c'est aussi peut-être quelque chose qui est moins connu que je voudrais souligner. C'est quelque chose qui étonne toujours les gens, notamment vos collègues de la presse féminine qui m'ont appelé pendant 40 ans toute ma carrière pour me demander effectivement si maintenant, vu tous les progrès du féminisme, une femme française aujourd'hui conduirait en quelque sorte très différemment de sa grand-mère, qui à la limite conduisait pas du tout, et que donc ça se rapprocherait des comportements masculins et que cette vieille différence sexuelle disparaîtrait avec tous les progrès du féminisme, le fait de travailler, de divorcer, de salaire égal, etc. Eh bien non, effectivement, c'est ça qui est très passionnant dans l'étude des différences hommes-femmes, c'est qu'en fait, depuis 50 ans, si vous voulez, la différence homme-femme, et à tous les âges de la vie, elle est totalement stable, c'est presque comme une constance biologique.
Donc c'est toujours genré.
Que tous les changements sociétaux n'ont pas atteint, n'arrive pas sur la route, si vous voulez. Il y a encore aujourd'hui autant de différences entre un jeune homme français et une jeune femme qu'il y avait entre son grand-père et sa grand-mère.
Et le rapport à la voiture...
C'est toujours genré. Il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. C'est intéressant parce que les féministes ultra qui parfois nous expliquent finalement il n'y a plus de genre, ou en tout cas on peut passer d'un genre à un autre et que c'est...
Là, on c'est à leur avantage.
Sur la voiture, c'est plutôt à l'avantage des femmes, c'est très genré.
Et moi j'ai une question à vous.
Nemo, il conduit comment, s'interroge Barbara Lefebvre.
Alors Nemo, il conduit à droite ou à gauche, je ne sais pas.
Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez vraiment...
Nemo, c'est le vainqueur de l'Europe. La
différence de relation à la voiture entre les hommes et les femmes.
Bien sûr que le rapport à la voiture est différent. Ça a toujours été un rapport un peu plus neutre pour les femmes, comme un outil, comme un aspirateur ou un micro-ondes. Voilà. Et il y a toujours eu beaucoup plus d'investissement presque libidinal et sexuel chez les hommes. Mais ceci dit, c'est quelque chose qui est quand même en train de céder, parce que les jeunes hommes français... n'ont plus le même rapport à la voiture que leur père ou leur grand-père.
Ah, donc ça bouge,
bien sûr. C'est pas du tout une question de sécurité routière, c'est une question de développement durable, surtout, en fait. Oui. Donc, c'est la mobilité qui va changer tous ces rapports. Mais, enfin, bon, peut-être une dernière chose à vous dire, c'est que, évidemment, ce qui n'a pas changé depuis 50 ans, et c'est ça la grande différence homme-femme, c'est la question de la confiance excessive en soi. C'est-à-dire que, sur la route, va s'exprimer quelque chose qui n'est absolument pas spécifique à la route, c'est que quand vous demandez à des sujets féminins ou masculins de 4 ans ou de 40 ans ou de 80 ans, est-ce que tu es suffisamment confiant à réussir à faire ceci ou cela? Eh bien, les sujets masculins sont toujours beaucoup plus, et voire trop confiants, de réussir une tâche. Donc, effectivement, par moment, le réel vient se rappeler à eux.
Merci Jean-Pascal Assailly, psychologue spécialisé à sécurité routière. Merci à Franck, à Noémie, entre autres, d'avoir témoigné. Merci. Mais on va regarder, les femmes conduisent-elles mieux que les hommes? On a la petite consultation finale. Non, 60,3%. Oh, 60,3%.
Voilà. Même avec les chiffres, il n'y a pas moyen.
RMC, les grandes gueules.
À vous d'appeler au 32-16 tout à l'heure pour venir discuter et débattre avec les GG, avec les grandes gueules, le patron de PME Mehdi Guézard, le cheminot Bruno Poncé et la coach de vie Joël Dagosséry. À tout à l'heure, 9h pour les GG, pour les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h-midi.
RMC, Rotten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Rotten. Cette semaine, dans Rotten sans flamme, on fait le grand jugement de la saison du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ils vont tous y passer. Ne ratez surtout pas ça, ce sera tous les soirs à 18h30 sur RMC. Et ce soir, on fait le procès de Luis Enrique.
Alexa, mets RMC.
D'accord.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
C'était ce matin sur RMC.
Arnaud, mon invité ce matin dans le face-à-face sur RMC BFM TV, c'est Dominique Schelcher, le PDG de Système U.
C'est la régie, hein. Ça c'est les communistes en herbe. Les gars, j'ai demandé le jingle de U, mais pas de Robert U, le U normal. Alors Dominique Schelcher, il a U. Nous aussi, on l'a eu plusieurs fois même. Grosse semaine pour Dominique. En effet, jeudi, c'est le congrès des patrons de magasins U. Ils viennent tous ensemble et ils se racontent des anecdotes de fou. Ils sont là. Tu sais quoi, Jean-Jacques ? Dans mon U, on a mis le lot de yaourt, la laitière, saveur vanille à 2,56€ les 6. Oh, le malade ! Nous, déjà, avec le taboulé Pierre Martinet, poulet et légumes du soleil à 1,34€ les 100 grammes, on avait l'impression d'avoir abusé. Mais alors, oh, faut que j'en parle à Dominique. Il est où, Dominique ? Dans ton U. Oh ! L'éclate. Ils vont... Les congrès à visiter. Ils vont brainstormer sur les innovations. Par exemple, une application mobile. L'app U. Alors, c'est très facile. Non. Tu ouvres l'app U, tu cherches un produit et ça te dit si le magasin l'a ou s'il l'a pu. Merci, l'app U. Je me demande si Dominique Schelcher, il rencontre parfois des collègues à lui, les patrons de sociétés qui font qu'une lettre. Il y aurait un colloque qui réunirait le patron de système U, le PDG de point
P.
Ah oui. D'Agnès.
B.
B. De préparation.
H. H.
De l'eau.
L'eau. M.
Voilà. Bon. Donc, on parle de, grande distribution. Un directeur adjoint des magasins Action a été licencié après 8 ans dans l'entreprise pour avoir mangé un paquet de mini saucisses à 5,48€.
Oh non,
c'est les mini saucisses.
Amélie, il faut appeler ce monsieur. Ouais. 5,48€, c'est scandaleux. Je pense que Dominique Schelcher le confirmera. Des mini saucisses à 5,48€,
c'est scandaleux.
C'est abusé, quoi. Surtout chez Action, où normalement elles sont faites avec des chiens errants, des bouts de pneus, des restes de hérissons écrasés ramassés sur le bord de l'autoroute. 5,48€ pour ça, c'est trop. C'est pas chez U qu'on verrait des choses pareilles.
C'est sûr.
RMC. Apolline Matin,
c'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Et c'est Arnaud qui est revenu dans ce studio. Salut Arnaud de manche.
Et ce matin, on va parler romance. Ou romance même. Car Emmanuel Macron répondait ce week-end en vidéo à des questions des internautes sur l'Europe. Vous avez vu la vidéo ? Eh bien, un des noms a retenu mon attention.
Charlie le BG, donc j'imagine le beau gosse, sur Snapchat.
Charlie le BG. Charles, c'est votre petit nom Tinder.
Allez, non.
Charlie le BG. Donc ça y est, vous êtes fait larguer par Kylian Mbappé, donc voilà. Vous draguez son ex.
Exactement.
Celui qui lui caressait le torse et lui ébouriffait les cheveux. Le président.
Rendez-vous sur Snap.
Le président met le paquet sur l'Europe, sa liste est en retard face au RN. Dans cette vidéo, il a répété « Je combats sans relâche les idées des extrêmes droites ». Et au même moment... Bing ! Valérie Ayé se fait prendre en photo tout sourire avec des néo-nazis. Mauvais timing, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Elle a dû vouloir faire comme le RN. Hein. Eux, ils se prennent en photo avec des néo-nazis tous les 15 jours et ils sont en tête de tous les sondages. Elle se dit, ça marche. D'ailleurs, Valérie Ayé a reçu le soutien de Nathalie Loiseau, qui avait piloté la liste macroniste il y a 5 ans pour les européennes. Et dans le Figaro, Nataloche, elle a donné un conseil assez étrange à Valérie. Elle lui a dit, je cite... Ton entourage a peur que tu fasses une gaffe, mais quand j'en ai fait, beaucoup de Français m'ont trouvé sympathique. Voilà. Fais comme l'oiseau. Fais des conneries, Valérie, fais des gaffes. elle a déjà commencé, la photo avec les nazis, c'est pas mal, mais continue, dis n'importe quoi, conduis bourré, tamponne un cycliste avec ta bagnole, ou même juste, allez, lâche-toi, tombe les barrières, sois décontracte, fais-toi inviter au face-à-face, devant Apolline, tu chantes le papa pingouin, le papa pingouin, elle va adorer, sois moins rigide.
Elle aurait bien un peu de surprise, quoi.
Voilà, elle est trop dans le contrôle, Édouard Balladur, il aurait eu l'air plus sympa si au lieu de dire, je vous demande de vous arrêter, il avait dit, je vous demande de fermer vos gueules, on aurait encore dans le sang, quoi, cet homme-là.
Emmanuel Macron recevait hier des investisseurs du monde entier à Versailles, dans le cadre du fameux sommet Choose France.
Voilà. Et à Versailles, 15 milliards d'investissements ont été promis. En fait, Choose France, c'est un peu comme un speed dating, mais pour un pays. Salut. Moi, c'est la France. J'aime le libéralisme, l'industrie, la compétitivité. J'adore les sugar investisseurs comme toi qui aiment gâter les petits pays qui en veulent. Si tu veux, ce soir, je te chuchoterai tous les mots qui t'excitent. Je te chuchoterai tous les mots qui t'excitent. Crédit d'impôt, baisse des cotisations sociales, baisse de l'allocation chômage, RSA conditionné. Ça t'excite, hein? Tu me chooses? Hein, tu vas pas partir chez cette petite michto d'Allemagne? Ah, choose me, hein? Non, Olaf, ça c'est mon client. Retourne tapiner à Francfort. Alors,
il y a Manu qui est tout chose.
On a aussi annoncé la construction d'une méga factory de fabrication d'engrais dans la Somme, car dans la Startup Nation, on ne dit plus trimer dans une grosse usine. On dit faire du business dans une méga factory. Un ouvrier ne se fait plus virer. Il se retrouve au cœur d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Voilà.
C'est plus comme avant. Nous, à RMC, on travaille même pas dans un immeuble de bureau. On est au campus Altice.
Oui, c'est vrai.
Un campus. Ça a l'air fun. On visualise des étudiants bouquinés dans l'herbe. Wow. Une intello à lunettes qui édite le journal de la fac. Ouais. Amélie en chef des pom-pom girls. Enfin, c'est pas ça chez nous. Ça ressemble quand même vachement à des bureaux, notre campus.
Hier, c'était le dîner des jeunes giscardiens. Mais oui, ils fêtaient les 50 ans de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing.
Et oui, et tous les jeunes giscardiens étaient
de l'époque.
Les quatre qui restent.
Parce que ça n'existe plus aujourd'hui.
Bah, disons qu'ils sont moins jeunes.
Moins jeunes.
89 ans de moyenne d'âge, c'est pas assez jeune, quoi. Donc, à ce grand dîner sponsorisé par Orpea, on a festoyé en écoutant de la musique de jeunes. Mireille Mathieu, Lucienne Boyer, Pascal Sevran, Patachou. Et le menu était à la hauteur de l'événement. Il y avait de la blédine, de la purée à la crème, de la crème à la purée, des milkshakes à volonté, des yaourts avec des gâteaux écrasés à la cuillère pour qu'on puisse mâcher. Oh. C'était super. Et à la fin, tout le monde est parti en se disant au revoir. Au revoir. Effectivement, Manu se posait la question, mais pourquoi ces organisations existent encore? Enfin, je veux dire, il est mort, c'est fini, enfin, c'est plus lui l'avenir. C'est comme les jeunes avec Napoléon ou les jeunes avec De Gaulle, les jeunes avec Mélenchon, c'est plus des solutions pour demain. Il faut arrêter d'y croire.
Ce soir, Arnaud, c'est l'ouverture du Festival de Cannes.
Et je crois savoir que ce soir, Gérald Darmanin lancera à Cannes une vaste opération anti-drogue Place Net XXL. Non, c'est une vanne. Paniquez pas, les gens du cinéma, fausse alerte. On sait très bien que la drogue dans le cinéma, c'est primordial. Enfin, je veux dire, aucun producteur ne financerait vos films s'ils étaient à jeun en lisant les scénarios. D'ailleurs, la sélection Un certain regard est encore pleine de promesses. Comme me le confie un ami de cette rubrique, Dominique Besnay. Tu l'as fait. Il y a par exemple dans la sélection Un certain regard, le film chinois Gu Zhen, dont voici le résumé. Dans le désert de Gobi, un homme est chargé d'abattre les chiens errants avant les Jeux Olympiques de 2008. Mais il recueille l'un d'entre eux et ils partent en road trip. C'est un vrai pitch. Hein. Mais il y a aussi un autre chef-d'œuvre, The Village Next to Paradise. Dans un village dans le désert somalien, un père célibataire cumule les petits boulots pour survivre et recueille sa sœur victime de violences conjugales. Ne loupez pas également Nora, dans un village du désert saoudien.
C'est des vrais filles.
Un professeur d'art recueille une jeune femme talentueuse. Oui, la grande tendance cette année,
c'est les filles qui s'emmerdent
dans un village perdu d'un désert, d'un pays pas marrant, et ils recueillent quelqu'un. Il y en a 74 comme ça. Je plains les membres du jury qui vont devoir tous les regarder. Juré de Cannes, c'est prestigieux, mais c'est moins rigolo que juré de Miss T-shirt mouillé. Miss T-shirt mouillé, j'aime bien. En fait, les candidates, elles défilent devant moi, je leur parle et après le T-shirt est mouillé. Alors cette année, cette année, c'est pas les intermittents qui vont interrompre le festival, c'est le jury qui en pourra plus.
Non, trop loin.
Bon, je vous laisse, les projections vont commencer. Ouais. Vous entendez le générique de la sélection ?
Quand t'es dans le désert.
Ça veut dire que ça commence. Allez, bon début de festival.
Arnaud Demanche est chaque matin à 7h20 et 8h20
dans Apolline Matin sur RMC.
Tout de suite, réécoutez C'est tous les jours de manche en podcast.
Sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
Le 32-16, pour moi, c'est la liberté, quoi. T'entends un mec qui dit un truc à la radio, t'appelles, et 5 minutes après, tu passes à l'antenne et tu le contres, tu argumentes, tu t'interviens.
De 5h à minuit, le standard RMC n'attend que vous au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
L'actualité du jour, et c'est ce chiffre. On a consommé 1 million de produits de moins que l'année dernière en supermarché. Une baisse de la consommation qui touche tous les secteurs. Alimentation, hygiène, habillement. Les explications de Dominique Schulcher, le PDG de Système U, invité ce matin d'Apolline de Malherbe.
Il reste intact un problème de pouvoir d'achat. Et ce problème de pouvoir d'achat, cette tension, depuis maintenant des mois, pèse sur les choix des gens. Ils arbitrent. Parce que mes dépenses contraintes ont fortement augmenté, je suis obligé de faire des choix et je les fais sur l'alimentaire. Et un autre produit qui est vraiment très très arbitré parce qu'il est aussi plus cher dans le panier, c'est la viande. Il y a toute une série de produits de beauté, les crèmes, etc., des choses plus sensibles et plus chères, elles sont boudées. Je recite ce chiffre, au-delà de 3 euros, les produits se vendent moins, par exemple.
Voilà, la France touchée par ce phénomène de déconsommation. Est-ce que c'est la première fois, Rémi ?
Ben pour ce qui est des dépenses alimentaires, selon les données de l'INSEE, c'est du jamais vu depuis les années 80.
Ah, quand même.
Les explications, elles sont simples. Hein. On le sait, les salaires n'ont pas augmenté aussi rapidement que les prix. D'après le dernier baromètre de Nielsen Q, paru en fin d'année dernière, la France est même le pays où les prix ont le plus augmenté depuis janvier 2022. Donc, en l'ensemble des moyennes d'augmentation des prix. Là, aujourd'hui, on sait que la hausse est ralentie. Il y a toujours une hausse, hein, mais elle est ralentie. Mais on est les pires dans le domaine de toute l'Europe. Selon une étude réalisée par CWise Fondation Nestlé France, 37% des Français se déclaraient en insécurité alimentaire en 2023. C'était seulement 11% seulement en 2015. Frappés par l'inflation, les ménages privilégient désormais les produits premier prix, réduisent les quantités et éliminent les aliments comme le poisson et la viande. Dans une interview donnée par le PDG de Système U qu'on vient d'entendre, il affirme à plus de 3 euros, les gens n'achètent plus. D'après lui, les consommateurs délaissent les produits frais traditionnels et limitent aussi les achats non alimentaires. Une déconsommation subie qui repose en grande partie sur les plus modestes, les plus pauvres. 42% des Français les plus précaires se disent aujourd'hui contraints de sauter régulièrement un repas.
Alors, cette déconsommation, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Parce qu'on peut aussi se dire que c'est une bonne parce qu'on surconsommait, Pierre-Edouard Magnan.
Mais oui, en fait, l'ambiguïté, elle est là. En soi, la déconsommation n'est pas forcément un mal dans la mesure où on sait qu'effectivement, on est dans des sociétés. Alors, je parle évidemment des sociétés occidentales, entendons-nous bien. On a tendance effectivement à surconsommer. On a souvent parlé ici de fait qu'on remplaçait, on réparait pas, on jetait facilement. Par contre, le véritable problème, d'abord, c'est que ça concerne l'alimentaire et surtout la cause de cette déconsommation, qui est effectivement une baisse de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire en fait une baisse du revenu des gens. Là, on a ce chiffre de 42% qui saute des repas pour les ménages précaires. On sait que le chiffre tout ménage confondu est quand même aussi très important. Alors, aujourd'hui, donc des gens, y compris de ce qu'on appelait, faut-il l'appeler encore ainsi, la classe moyenne qui consomme de moins en moins. Donc, effectivement, le problème, c'est la cause. Si c'était un choix, j'allais dire écologique, politique, volontaire, réfléchi, qui d'ailleurs pèserait sans doute moins sur l'alimentation que sur d'autres types de produits.
Exactement.
On pourrait, alors après on aura un grand débat sur la décroissance, mais au moins on pourrait avoir un débat de fond et qui ne serait que politique.
Parce que t'as le mouvement des décroissants également, mais c'est un choix.
C'est cette idée que de dire, je ne sais plus qui avait prononcé cette phrase, mais il faut être fou comme un économiste pour penser qu'on peut croître sans cesse dans un monde fini. Bon. Donc évidemment qu'il peut y avoir un débat autour, puis qu'est-ce qu'on appelle la décroissance, etc. Mais là le vrai sujet c'est qu'en fait c'est pas un acte militant de décroissant qui dit je consomme moins pour pour la planète, pour la production, pour etc. Oui. Simplement des gens qui aujourd'hui ont pour beaucoup du mal à se nourrir. Et ça, c'est évidemment catastrophique dans ce qui reste quand même la 7e puissance économique mondiale.
Exactement.
Et dans un pays par ailleurs qui est très riche. Je rappelle toujours cette phrase historique que les pauvres sont toujours très heureux de savoir qu'ils habitent un pays riche. C'est hélas de plus en plus vrai.
Emmanuel Dancon, vous faites partie justement de ces classes moyennes. Vous avez 4 enfants. Est-ce que vous aussi, vous êtes touché par ce phénomène de déconsommation? Est-ce que vous faites des arbitrages aujourd'hui?
Ah bah oui, mais et c'est ça qui est nouveau finalement, c'est que ce sont les classes moyennes qui sont touchées. On a 56% aujourd'hui des Français qui souscrivent à un crédit consommation, c'est pour finir les fins de mois. Ouais. C'est pas pour acheter la voiture, c'est pas pour faire des travaux, c'est pas pour payer le loyer ou payer les vacances ou les études des grands. C'est pour pouvoir manger, payer l'électricité, payer les factures de base. Et oui, évidemment qu'on est touché. Je vous avais déjà raconté ici, pour moi, ce n'est pas une anecdote. Ces gens qui étaient avec moi en train de faire leurs courses dans le petit supermarché du coin et qui, à 20 centimes d'écart, n'ont pas acheté des bananes parce qu'elles avaient augmenté de 20 centimes. Et je les entendais discuter, un couple assez âgé. Et ça brise le cœur. Mais à 20 centimes, ils n'y arrivent pas. Et c'est ça qui est nouveau. Alors peut-être que ces gens-là étaient très pauvres. On sait que les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres chez nous, dans un pays de riches, comme tu le dis, où les riches sont toujours de plus en plus riches. Mais ça, c'est la classe moyenne qui est touchée. Et c'est ça qui est nouveau. Et si vous vous souvenez, en 2003, Jean-Louis Borloo avait passé une loi, qu'on appelle la loi Borloo, qui était pour qu'on efface les dettes des ménages les plus surendettés. Alors tout ça a été très encadré, mais c'était pour les pauvres des pauvres. Et là aujourd'hui, on parle des classes moyennes.
Oui, tout à fait, qui se sont appauvries. Et évidemment, Daniel Riolo, est-ce qu'on peut quand même se dire que quelque part, c'est presque rationnel, bien sûr. Voilà, c'est pas bien que les gens les plus pauvres ne puissent plus manger. Ça, on est entièrement d'accord. Mais force est quand même de constater qu'on a été quand même à un moment où on surconsommait, quoi. On achetait tout et n'importe quoi. Il y a quand même énormément de magasins à bas prix comme Action. Je suis désolée, mais les gens qui vont à Action, c'est parce que c'est pas cher, mais ils achètent aussi des choses dont ils n'ont absolument aucun besoin, quoi.
J'aimerais bien, Estelle, que ce soit, comme tu dis, là en l'occurrence, d'après l'enquête, j'ai pas l'impression qu'on est en train de décrire un phénomène volontariste, avec une déconsommation qui, on le rappelle, est un concept où une personne décide de moins consommer. Là, comme l'a dit Emma, c'est des gens qui vont souscrire à un emprunt pour boucler la fin du mois. J'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle volonté de plus manger de viande, ou alors il doit y avoir peut-être des gens qui deviennent végétariens par volonté ou par force.
Et je pense qu'on est très nombreux à manger moins de viande qu'il y a 3 ou 4 ans. Hein. Ça, et ça n'a rien à voir avec les classes sociales.
Ça d'accord, mais de quoi on est en train de parler là? Est-ce qu'on est en train de parler de gens qui n'y arrivent plus et qui n'achètent plus de produits frais parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils ne veulent plus? Pourquoi pas également des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, de bien manger, qui décident de mettre leur argent ailleurs.
T'achètes autant d'habits qu'il y a 5 ans par exemple?
Non, voilà. C'est vrai.
Tu manges autant de viande qu'il y a 5 ans?
C'est vrai, mais est-ce que dans la question qu'on a décidé de poser aujourd'hui, on est en train de parler d'un acte volontariste qui est donc... Parce que la déconsommation, le concept, c'est que c'est un acte volontaire.
En fait, il y a les deux.
Là,
c'est difficile.
Dans la déconsommation, je décide de moins consommer.
C'est difficile.
Là, j'ai plus l'impression qu'on est en train de parler avec tous les chiffres qu'on donne quand on entend le patron de Système U, c'est je n'ai pas les moyens parce que pouvoir d'achat en baisse, je ne peux plus acheter ci, je ne peux plus acheter ça. C'est pas j'ai plus envie d'acheter de produits frais parce que ça m'intéresse pas.
Je pense que t'as les
j'ai
deux.
J'ai plus envie d'acheter de viande parce que j'aime pas la viande ou j'ai envie de passer à autre chose. C'est ça qu'il faudrait. En fait, je trouve que
c'est extrêmement Daniel pour répondre à sa question, c'est extrêmement difficile. De définir la part exacte de consommation choisie et la part exacte de déconsommation subie. Il n'en reste pas moins que vu la flambée des prix de l'alimentaire,
évidemment,
du carburant, de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt pour les prêts immobiliers, etc. Il est clair que la majorité de la déconsommation actuelle, elle est subie.
Mais moi, je vous rappelle une anecdote.
C'est bien ce qui me semble.
La dernière fois, j'étais au supermarché, je prends des blancs de poulet. Alors, j'essaie de les prendre bio. Voilà, j'avais vraiment pas le temps, etc. Et j'arrive à la caisse et je crois que c'était 15 euros. Pardon. Je crois qu'ils
sont blancs de poulet.
Et le caissier m'a dit non, c'est 15 euros. J'ai dit, c'est pas possible. Je peux pas payer 15 euros pour deux blancs de poulet.
Attends,
quoi.
Deux blancs de poulet, 15 euros. Je sais pas quelle marque c'était.
Ah, si,
j'ai jamais vu ça.
Ah, c'est supermarché. J'ai pris les blancs de poulet. Je suis allée les reposer. Je peux vous dire qu'on a mangé des pâtes. Mais en fait, je peux me les payer. Mais je le fais pas parce qu'à un moment on est devenu fou. C'est pas possible de payer deux blancs de poulet 15 euros. Enfin, je disais, mais c'est pas possible, tu sais. Et on n'était même pas, et j'étais pas à la grande épicerie, tu vois. J'étais au supermarché du coin, j'étais au Carrefour City du coin. Là, tu te dis, il y a un truc qui va pas.
Mais là, t'es tombé sur un bandit parce que ça me paraît vraiment.
Non, mais
la prochaine pub, je fais une enquête recherche parce que c'est pas possible.
Mais j'étais entre 13 et 15 euros.
Alors, il lourd.
On va pas débattre pendant une heure des blancs de poulet. Franchement, ça m'étonne.
Mais on n'était pas. Ils pesaient leur poids. Mais enfin, c'est pas le problème. C'est pas possible. À un moment, on est devenu fou.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une part de gens volontaires, auquel cas, c'est un autre sujet. Il y a une grande majorité de gens qui aujourd'hui ont du mal à accéder à se nourrir. Et il y a aussi ceux qui peuvent, je dirais, c'est la situation que tu évoquais, mais qui se disent en même temps, avant, ça devient délirant. Et au-delà, alors, il y a ceux, de toute façon, qui ne se posent pas la question, parce qu'ils ne peuvent pas y accéder. On évoquait les taux d'intérêt, tu parlais des prêts à la consommation, mais en plus, les taux aussi des prêts à la consommation. Mais ça, c'est des gens qui ont de plus en plus de mal, empruntent de plus en plus cher. Ouais. Moins tu peux payer, plus tu payes. Mais donc, c'est un certain. Il y a aussi, effectivement, des gens qui se disent, oui, je peux, mais ça devient, enfin, ça n'a plus de sens.
Exactement.
Tu disais un truc intéressant tout à l'heure. Ouais, mais la France est la cinquième.
Septième puissance mondiale.
Voilà. Est-ce que ce phénomène n'est pas plus accentué en France? Ce qui, auquel cas, serait encore plus.
Si, on est le pays où les prix ont le plus monté, c'est ce que Rémi expliquait. Je voudrais qu'on prenne Romain. En ligne, c'est très intéressant. Romain, il nous appelle de Gap et il est banquier depuis 10 ans. Bonjour Romain.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour. Romain, on parlait de ce nombre croissant de Français en fait, qui sont obligés de puiser dans leur épargne pour finir les fins de mois ou de souscrire des prêts à la consommation. Est-ce que vous le constatez aussi dans votre agence bancaire?
Oui, alors en fait, nous, c'est un phénomène qui est là depuis un moment. C'est des gens qui viennent nous voir en disant, on n'arrive pas à joindre pas finir les fins de mois, etc., etc. Et moi, je fais toujours un exercice, parce que à force, je connais la musique. J'ai plus, avec le client, les trois derniers relevés de compte. Et on pointe ligne par ligne, ligne par ligne. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on a mis de côté abonnement Netflix, Canal,
vidéo,
la salle de sport, qui en plus personne n'y va, il s'assoit dans le bureau, il pose toujours le téléphone sur le bureau, je regarde toujours un peu le téléphone, c'est pas un Nokia 3310, c'est toujours un téléphone dernier cri. Donc moi j'ai envie de dire oui, quand les clients me disent on n'arrive pas à joindre les deux bouts, mais quand on refait les calculs, quand on enlève en fait tout ce commerce non essentiel, tous ces abonnements, en fait on se rend compte que si 9 fois sur 10, franchement 9 fois sur 10, les gens peuvent joindre les deux bouts. Ceux qui ne peuvent pas
joindre
les deux bouts.
Ça, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Romain. Ouais. Ça, c'est très intéressant et c'est trop peu dit parce que effectivement, et d'ailleurs, vous utilisez une expression qui mérite qu'on s'arrête dessus. Vous
dites non essentiel.
Non essentiel. Ah ben oui. Mais ça dépend.
Mais ça fait partie des plaisirs de la vie. Si tu bosses, t'as le droit d'avoir Netflix.
Absolument, mais j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Est-ce que c'est pas le concept d'essentiel qui a changé dans la tête des gens? Et est-ce que mal manger ou même sauter un repas ou grignoter à midi pour ne pas manger parce qu'on a envie de garder la thune pour faire autre chose, est-ce que le concept d'essentiel n'a pas varié? Vous voyez, Romain?
Oui, mais après ça c'est il faut en fait c'est un peu la société qui est comme ça, faut rentrer dans le moule, il faut avoir vu la dernière série Netflix et voilà, puis il y en a qui font des concessions. Moi, après que les gens fassent des concessions, mangent moins de bonne viande, mais qui regardent Netflix à côté, ils font ce qu'ils veulent.
Ouais, exactement.
Faut pas venir se plaindre derrière. Faut faire très attention à ça.
Mais Romain, quand même, excusez-moi, mais quand même quelqu'un se retrouve dans le rouge à la fin du mois, moi, je veux bien que ce soit Netflix et Canal, et qu'admettons, il y ait, 100, 150 euros de non essentiel. Mais enfin,
ça change tout dans un panier repas.
Non, mais ça change tout, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des gens qui roulent sur l'or quand même. C'est 150 euros qu'ils vont faire.
Mais c'est pas ça la question. Ce que dit
Romain,
c'est qu'en fait, finalement, les gens font bien ce qu'ils veulent. S'ils préfèrent avoir Netflix et manger un steak haché surgelé, il gère sa vie comme il a envie de la gérer.
Oui.
C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention.
Mais il pourrait peut-être avoir les deux.
Dans la description. Parce qu'il y a des gens.
Niveau de vie. Mais derrière, c'est un niveau. Alors, on peut discuter de ce qui est
essentiel. Quand tu as un abonnement Netflix prêt, tu vois, c'est 15 balles.
Tu constates une baisse du niveau de vie. L'essentiel, en fait, qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est aussi du ressenti. Alors, l'essentiel, évidemment, c'est de se dire. Mais il y a une partie de ressenti. Il y a des gens qui vont considérer que des chaussures de marque, ça fait, j'exagère un peu, mais c'est essentiel. Il y a des gens qui s'en foutent et qui vont chez les marques, etc.
Tu as raison.
Il y a y a cette dimension-là. Alors après, on peut en débattre, mais à mon avis, c'est infini. Après, le sentiment de ces gens qui peuvent plus être, j'avais pas abonné Netflix, qui
avoir une vie normale.
Moi, j'ai pas d'iPhone, donc je m'en fous, mais qui peuvent pas avoir le dernier iPhone, qui est sorti, etc.
Même si d'avant.
Et ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est aussi des gens qui vivent un sentiment de régression et derrière tout ce qu'on
le parle déclassement. Là, c'est aussi
la mentalité.
Oui, mais ce sentiment, on n'a pas à le régler, nous.
Jusqu'à
comprends.
nos parents considéraient que leurs enfants allaient vivre mieux qu'eux.
C'est oui, mais qui doit régler ce sentiment-là?
Mais attends,
c'est intéressant ce que tu dis. Mais qui doit régler ce sentiment-là? Si quelqu'un se sent,
il faut monter les salaires.
Un petit peu.
C'est une question.
Attends, si quelqu'un se sent dégradé parce qu'il a pas le dernier le dernier téléphone, mais qu'en même temps à côté, enfin, tu vois.
Mais le problème, on n'a pas parlé d'un autre truc qui coûte très cher, c'est les cigarettes. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui fume un paquet par jour aujourd'hui, on a pour 300 euros net par mois. Et ça, c'est une énorme dépense en fait. Je veux dire, c'est plus cher que Netflix, etc.
La question, c'est ce que disait Romain. C'est eux.
Oui, mais fumer, c'est une addiction. Je pense que les gens, s'ils pouvaient arrêter de fumer, ils arrêteraient.
La question que vous posez en fait, et c'est le mot qui n'a pas encore été prononcé, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste à vivre? C'est
quand il y a un reste à vivre,
on gagne quelque chose. Quand il y a un reste à vivre, évidemment pas assez puisqu'on a 56% des crédits à la consommation qui aujourd'hui sont faits pour finir les fins de mois. Qu'est-ce qu'on fait de ce reste à vivre? Et des fois, il y a des gens qui gagnent moins, mais qui sont aidés socialement, etc. Donc, on reste à vivre, des fois plus gros que la personne célibataire qui va gagner 2500 euros par mois. Voilà. Et c'est ce reste à vivre-là qu'il faut interroger.
Mais le problème, c'est qu'il y a 10 ans, si tu veux, avec le même salaire, on vivait mieux. C'est ça le problème. C'est
bien sûr.
Nos parents, qui ne roulaient pas forcément sur l'or, t'allais quand même en vacances au camping.
Parce qu'il y avait moins de besoins non essentiels.
Mais ça, tu as raison.
Écrit comme non essentiel.
Tu as raison.
Eh oui, mais donc, après, on en revient à la capacité de chacun à se gérer.
Alors, je voudrais qu'on voit des messages avec vous, Rémi, parce que ça tombe sur la pierre MC.
Des témoignages comme celui d'Aïcha qui nous dit « Bonjour Estelle, je fais des arbitrages, payer toutes les factures et après j'ajuste. Je ne veux pas être à découvert ni faire de crédit à la consommation, je me prive. Heureusement, je ne me mange pas beaucoup. Belle émission et bientôt à l'antenne. » Voilà ce que nous dit Aïcha.
Et on va prendre tout de suite en ligne Antoine qui nous appelle du Loiret. Il est cadre télécom, Antoine, et il est dans une famille de 4. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à l'équipe.
Bonjour Antoine. Et Antoine, vous gagnez plutôt pas mal votre vie, c'est ça?
J'ai un salaire plutôt correct, oui. Après, mis bout à bout avec le paiement des factures et, et les augmentations diverses et variées, c'est compliqué. Ouais.
Parce que vous êtes à combien par mois, vous Antoine?
Aux alentours des 2500 euros.
D'accord, donc 2500 euros, on avait mis 4500 sur ma fiche, donc c'est
pour
ça que...
Pour
les deux.
Ok,
c'est pour ça que je me disais, tiens, bon, c'est un salaire plutôt confortable. Donc vous êtes à 4500 à deux. Est-ce que vous avez du mal à vous en sortir, Antoine, ou est-ce que finalement vous arrivez quand même à vous offrir des petits plaisirs?
Alors, du mal à nous en sortir, non, on va pas se mentir. Après, il est vrai qu'on priorise. On priorise, par exemple, sur les vêtements, par exemple, pour nos enfants. On va prioriser les sites de, de revente entre particuliers.
Ouais.
Je sais pas si j'ai le droit de citer.
Voilà.
On priorise là-dessus car on trouve que c'est très intéressant. Il y a des vêtements,
bien sûr,
on va dire à bas prix, de très bonne qualité. Et on profite de ça pour éviter d'aller au magasin et investir dans des vêtements qui finissent avec des trous au bout de 5 minutes. Donc c'est vrai qu'avec des enfants en bas âge, Vinted, c'est très pratique. Après, sur la question du essentiel, non essentiel, je rebondis sur ce que Romain disait. Nous, manger, c'est essentiel. Donc c'est vrai qu'on ne va pas se priver sur la nourriture. On se fait plaisir. C'est vrai que c'est cher. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure de poulet, de blanc de poulet. Je rebondis là-dessus. On est une famille de 4. Et ben admettons, on va prendre 2 blancs de poulet. Et puis on va les diviser par 4, en fait. Et puis on va manger moins, entre guillemets, et peut-être mieux.
Là, moi, je les coupe en morceaux et je les mélange au reste.
Oui, moi aussi.
Voilà.
Comme ça, on a l'impression que ça fait du. Ça fait gros dans la poêle.
Ça fait beaucoup, ouais.
Si je rebondis aussi, on a une autre. Nous, chez nous, par exemple, on se chauffe au pelé. Il y a quelques années, on a fait installer un poêle à pelé à la maison.
Et ça a flambé.
On nous a dit que c'était le top du top niveau consommation, qu'il fallait passer là-dessus. On est passé de 3,50€ le sac à 7€.
Ben oui, je sais. Ouais.
Ce sera toujours moins cher que le fioul, hein.
Ouais, mais ça a flambé l'année dernière. Mais c'est comme le gasoil. On te dit c'est moins cher, allez-y. Et finalement, tu te rends compte que les prix flambent et que tu ne t'es pas fait arnaquer. Mais enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins intéressant que ce à quoi tu t'attendais. Antoine, juste, est-ce que vous avez du non essentiel dans votre budget? Je pense à des abonnements Netflix, Canal, Disney+.
Oui, non essentiel. Pour moi, c'est essentiel parce que j'aime pas regarder ce qui passe à la télé. Donc, je regarde souvent Netflix le soir, les séries et les films. Parce que on va dire que les programmes proposés sont pas très intéressants, donc on priorise Netflix. Honnêtement, oui, on a Netflix. Après, j'ai pas.
Mais y a pas de problème. Hein.
J'ai pas Canal+, j'ai pas RMC Sport, j'ai pas tout ça malheureusement parce que ça fait trop cher en fait. Donc je me débrouille un peu
pour suivre les matchs de foot que j'aime bien.
Oh bah y a la radio RMC et ça c'est gratuit.
Oui, exactement, c'est gratuit, exactement.
Merci beaucoup Antoine, en tout cas d'avoir été avec nous. Et notre invitée c'est Cécile Dezonnet, elle est directrice d'études pour le think tank Futuribles et auteur de la société de déconsommation aux éditions Alternatives. Bonjour Cécile.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On se pose cette question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ce phénomène de déconsommation?
Alors ça dépend dans quel bout on le prend. Effectivement, là vous avez évoqué beaucoup.
Mais on a du mal justement.
Bah oui, j'entends. Sur la déconsommation plutôt contrainte, là c'est vrai que dans l'absolu c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et vous avez raison de souligner le fait que ça concerne de plus en plus de gens et que ça amène aussi à des arbitrages qui sont parfois assez douloureux et qui posent des vraies questions dans un pays qui est censé être quand même développé. Donc des gens qui ne mangent pas à leur faim, ça, effectivement, ça pose pas mal de questions. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'élargir un petit peu le débat et de se dire que il y a aussi, en fait, l'inflation là qu'on a vécue depuis 2 ans, même si elle se calme, elle a permis finalement de repenser un petit peu aussi nos dépenses. Et tout ce que j'entends là dans ce qui a été dit, c'est aussi le fait que à un moment, on va s'interroger, on va un peu rationaliser, quoi. On va se dire, bah oui, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce qu'effectivement, je peux pas aussi réduire le gaspillage alimentaire, par exemple, oui, dont vous n'avez pas trop parlé, mais on voit que depuis 2 ans, ça a été un levier aussi pour réduire les dépenses. Me recentrer sur les besoins un peu essentiels. Sur la question de l'énergie qui a été évoquée, on en parle beaucoup moins, mais pour moi c'est assez flagrant.
Oui, là aussi, c'est énorme.
Les prix explosent en fait, et on n'en parle plus. On en parlait l'année dernière, alors qu'il y avait des boucliers tarifaires.
44% en 3 ans.
Exactement, et là, clairement, il y a des vrais arbitrages pour les ménages, parce qu'une fois qu'on veut payer ses factures de pellets, de gaz ou d'électricité, ben oui, ça peut manger sur le budget alimentaire. Donc voilà, pour élargir, et puis bien sûr, il y a aussi le côté des consommations plus volontaire, mais ça, vous en avez déjà parlé un petit peu. Il reste effectivement minoritaire pour l'instant.
Merci.